La Dordogne, c'est un peu notre... Pourtant, on n'est pas du tout originaire d'ici. Mes parents ne sont pas du tout originaires de par ici. Hein.
D'où sont...
Maman était d'origine normande et morlandienne.
Ah, bah, décidément, on n'arrête pas de se... Hein, c'est incroyable, cette histoire.
Et mon père était d'origine bretonne, alors c'était pas du tout par ici, quoi.
Eh bien, c'est l'amitié de tous, les gens sont aimables, c'est déjà beaucoup, hein, parce que moi je suis née à Paris. Et le soleil aussi, la nature qui est jolie, les maisons sont très belles, les villages aussi.
Hein, la gastronomie aussi.
Oui.
Il y avait, j'ai vraiment quand je suis venue en résidence au Théâtre du Fond du Loup, il s'est passé un truc, j'ai senti que oui, j'avais envie de me poser ici. La forêt, j'ai trouvé que c'était très beau, très sauvage comme j'aime.
Les gens partaient travailler avec les bœufs, ils rencontraient le voisin, et on s'arrêtait, moi, bon, et on roulait la cigarette, les bœufs se reposaient, les gens parlaient, ils étaient plus heureux qu'aujourd'hui, je crois.
Je crois.
Ils étaient moins stressés qu'aujourd'hui.
C'était moins stressé, c'était... Hein?
Ah ben, jusqu'à l'année, mon premier tracteur, je l'ai acheté en 1960. On avait des bœufs pour travailler avant les tracteurs. Moi, j'ai travaillé presque pas 50 ans, mais bien 40 ans avec des bœufs. Ah oui, mais on n'était pas moderne à l'époque. Hein.
Ah, il n'y en avait pas. On était comme en bouillant. Toutes les maisons étaient exploitées, c'était des agriculteurs. Ah oui. Tu te rappelles, tout le monde plantait tabac, tout le monde avait bête, tout le monde avait...
Une quinzaine.
Oui, je l'ai compté un jour, une quinzaine, oui. Les propriétés, c'était toutes les mêmes à l'époque. Moi, je me rappelle qu'on avait une propriété de 44 hectares, je crois. Tu allais chez la Marguerite, c'était pareil. Tu montais au Colombier, c'était dans les mêmes. Le Ganil, c'était, voilà.
Ouais, ouais.
C'était tout dans le...
Il y avait combien d'années?
Et on vivait là-dessus, avec du tabac.
Ah, mais chaque ferme faisait du tabac.
Oui,
il y avait voilà, personne, tout le monde faisait du tabac.
Et c'était beaucoup de travail, mais c'était quelque chose qui...
Disons qu'il y avait quand même une main-d'œuvre familiale, heureusement. Ah, ouais, parce que pour faire ce qu'il fallait faire à l'époque, qu'on parle du tabac, là, il fallait le trier par longueur, par couleur, faire les manocs. Alors quand je vois attends, maintenant comment ils font le tabac, ils les feuillent, ils le mettent dans des cartons, c'est vrai.
Et quand tu commençais à faire les semis,
Ah oui. Ah, c'était toute l'année, au printemps il fallait faire le semis.
C'est au moins 10 mois sur 12.
Oui, hein? Oui.
Au moins 10 mois sur 12.
Et le planter la cheville, pied par pied.
Oui, avant que les machines arrivent, oui.
Oui.
Et il y avait
ils mettaient une chaîne avec, où il y avait des anneaux, et dans la chaîne, et en face, chaque anneau avait la cheville, ils mettaient le pied de tabac.
Exact.
Et moi, je me rappelle, suivant les terrains où c'était, J'ai un oncle là, sur Fromental, c'était du silex. Des fois, il fallait faire partir la pierre et le silex pour mettre le pied en place, hein, parce que
c'est pas évident. Il fallait qu'il soit à la même longueur. Hein.
Ouais, ouais,
et les
ouais.
contrôleurs, ils étaient vaches à l'époque.
Ah oui, parce que à cette époque-là, je sais qu'il fallait, par exemple, le gars, il en plantait 25 000, 30 000, 35 000. Et quand il avait fini de planter, il mettait un piquet au coin de la terre. Qui était fendu, il mettait le papier avec l'inscription, le nombre de rangs, le nombre de pieds par an et tout ça, ça faisait un total 2, et c'était recouvert avec une boîte de conserve vide, et quand le contrôleur passait, il regardait le papier, il comptait toute la pièce de tabac, et s'il y en avait 100 ou 150 pieds de trop, il les arrachait. À l'époque, il aurait fallu le tuer, le mec, là.
Oui, il m'en a fait arracher 400 pieds, une fois.
Vous savez, la feuille de tabac, elle est incurvée.
Et la deuxième feuille s'emboîtait parce qu'il y a un petit...
Ça faisait une rosace.
Et après, on la tournait, ça faisait la rosace. Et avec la 25e, on l'attachait et on l'enfilait pour qu'elle tienne. Après, il fallait les emballer dans une machine exprès en bois. Elles étaient rangées, croisées. Et il allait couper les ronces. Parce qu'il n'y avait pas la ficelle à l'époque. Il allait chercher dans les ronciers les grandes ronces où il fallait enlever les épines. Pour attacher les balles de tabac pour porter à l'entrepôt.
Ouais, mais
au dévime aussi, oui.
Quand je vois comment ils font le tabac aujourd'hui et ce qu'ils nous ont demandé de faire.
Et la présentation, elle comptait à l'époque.
Et tout à fait, après, ils donnaient des points, c'est-à-dire, dans la présentation, il y avait des experts qui achetaient le tabac en fonction de la qualité de la feuille.
Donc oui, il y avait le 4-4,
voilà.
À l'époque. Après, tu étais noté sur 20.
Voilà.
Et alors, il y avait un cousin à Léon qui était de salle de cadeau. Parce qu'en général, on livrait le tabac, mais on mangeait au resto avant de revenir. Et
c'était
comme ça. Et alors, il disait, moi, je suis content. J'ai 18 sur 20, il disait. Alors, il avait eu 10 à une récolte et 8 à l'autre. Alors,
et voilà.
Il dit, j'ai 18 sur 20. C'était Robert de Salle. Et avec Robert, quand on demandait la prune à la fin du repas, il disait à la bonne femme, mais laissez le bocal sur la table, on va s'en charger. On ne prenait pas une chacun.
Tout le monde avait un peu de vigne, mais pas beaucoup.
C'était pour soi, quoi.
Voilà.
C'était un demi-hectare, trois quarts d'hectare de vigne. Il n'y avait pas de grande surface.
Chez moi, on avait un cépage, il y avait quelques rangs de vigne, et c'était du noix. Vous avez entendu parler de ça ?
Je le connais.
Voilà. C'était un raisin blanc. Alors, il y avait quelques pieds de d'autres cépages. Ça rendait un vin rosé. Mais qui était pétillant, qui était... On buvait ça comme la limonade.
Ah ben, t'es, bien sûr.
Mais attention. Et alors, il paraît que ce vin rendait fou. Ben. Et c'est pour ça que j'en ai bu un peu trop, moi.
Mais bon.
Et tant pis.
Et ben, il fallait en boire un peu plus.
Et bien, voilà. Oui, beaucoup passé.
Voilà, bon. Non, mais parce qu'il a été interdit, celui-là. Hein.
Ah oui, voilà, oui.
Il y a longtemps, hein.
Oui.
Mais c'est... Mais il était agréable à boire comme tout.
Oui, il était...
Non, mais il faut dire une chose.
Déjà, quand on
quand on le mélangeait un peu avec d'autres vins, eh bien, ça tenait bien le vin.
Ah hein, oui, parce que c'est du raisin qui faisait l'alcool.
Oui, un peu, eh bien, je vous promets que le vin ne tournait pas dans l'année. Celui qui avait une cave à peu près bonne...
Seulement, il avait un défaut, c'est quand on coupait le raisin sur le pied, il fallait mettre le panier dessous.
Oh, pauvre.
Si peu qu'on touchait, les graines tombaient de...
Ah oui, c'est ça. Il s'est grené.
Ça, c'est le défaut du noir.
Amorcé ou pas ?
Elle était plus amorcée. Ah non ?
Non, non.
Elle est beau.
Je me rappelle de beaucoup de choses. Mais...
L'autre soir, là, quand je suis venu vous voir, vous me parliez de l'arrivée de l'eau sur Paléra.
Ah ben oui, l'arrivée de l'eau sur Paléra, c'était l'événement. En 71-72. Mais avant, il y avait des fontaines, mais des fontaines que il n'y avait pas de, on n'avait pas de source valable dans la commune. On avait fait venir des sorciers une fois. La José, Jobert, moi, voilà, on avait fait venir. On nous avait enseigné des gars qui... Ouais. On les a fait venir pour voir si dans le vallon, là, on aurait trouvé de l'eau. Le gars était assez sérieux parce qu'il nous a dit, mes pauvres amis, il n'y a pas de source valable pour vous quatre.
Ah oui, c'est une petite rivière qui ne coule pas souvent, mais...
Elle coulait davantage.
Elle coulait davantage
dans le temps. La côte, là, oui. Il y avait
je me
tout.
Rappelle...
Elle coulait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, j'ai vu.
Je
tout
le disais temps. Après, on a fait d'abord, de grosses erreurs dans l'agriculture, c'est qu'on a fait des forages. Sur Fongalo, Saint-Marcory, des forages qui font 250 mètres de profondeur pour faire de l'arrosage. Et on a pris toutes les nappes de surface, sûrement. Toutes les sources de surface. Et quand, avant que le niveau remonte, eh bien, c'est pas étonnant qu'on ait plus d'eau dans la couse. Eh.
Voilà.
C'est, le mal, il est là. Hein. Le mal, il est là. Et il aurait mieux valu, je pense, donner des subventions, des sous pour faire des réserves naturelles qui se seraient garnies l'hiver et garder ces eaux profondes pour l'eau potable. Parce que tous ces forages agricoles n'ont pas été tubés. C'est ça le gros du problème. On a pris les nappes de surface, les sources, tout ça tombe à 200 mètres.
Oui.
Et après, avant que ça remonte, eh bien, c'est pas étonnant qu'on ait plus d'eau dans la source, dans la couse, je veux dire.
Et est-ce que les rives sont bien entretenues? Parce qu'on se rend compte souvent que les
oui,
rives...
Oui, c'est nettoyé, ces... mais bon, le
mais
problème...
On a nettoyé la couse, là, c'était pas utile, parce que ça a été fait... trop profond, trop large pour le peu d'eau qui descendait. Alors c'était plein de sources où il y avait des poissons, où il y avait des truites, où il y avait de tout. Et puis ils ont enlevé tout ça et l'eau entrant, quand il y en a un peu, elle descend beaucoup plus vite. Et c'est pour ça qu'on n'en a plus aussi.
Moi je me rappelle quand on fauchait en bas là, chez mon oncle, là, eh bien, on fauchait dans l'eau et on portait l'herbe sur les côtés pour la faire sécher. Maintenant,
on laboure. Chez nous, voilà où je vous parle.
Disons que les zones humides, elles n'y sont plus. Et ça avait un rôle important, une zone humide.
Bien sûr.
Parce que ça, ça gardait la flotte et ça la relance.
Et encore cette année, la réserve n'a pas séché.
Et voyez-vous ces belles bêtes, creusées profondes et tracées droit, travant la pluie ou la tempête, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Quand je fais halte pour boire, un brouillard sort de leur naseau, et l'on voit sur leurs cornes noires se poser les petits oiseaux. S'il me fallait les vendre, le mardi gras devant le roi, j'aimerais mieux me pendre, plutôt que de voir mourir mes bœufs.
Mais il n'y avait pas de maladie à l'époque.
Mais il n'y avait pas de maladie au tabac à l'époque.
À l'époque,
voilà, c'est ce que j'ai dit. À l'époque, il n'y avait pas de maladie. Et aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de forêt.
C'est l'intensif qui a tué tout ça.
Quand on se marche dans la forêt, notre forêt est en danger. Le châtaignier meurt.
Mais il n'y a pas que le châtaignier, il y a des chênes.
Donc les maladies qui sont arrivées, le milieu et tout ça, ça n'existait pas avant.
Non.
Donc aujourd'hui, il faut. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que. La pollution, elle est là.
Ben, le hêtre, je crois que c'est.
Et il y a des maladies qui arrivent parce que. Bon, ben, c'est, je sais pas, moi, c'est les.
C'est dû à la pollution.
C'est comme les hormones. Mais,
je pense.
On aura plus un hormone
de. Je suis pas scientifique, mais je pense.
Il y a
que...
des hormones qui repoussent sur des souches de vieux hormones, ça dure 8 ans, 10 ans.
Voilà.
Crèvent.
Et ils meurent.
Les hormones vivants, il n'y en a plus.
Vous pensez que c'est les traitements des terres qui ont.
Traitement de terre,
la
pollution de l'atmosphère.
Autrement dit, on est tous coupables, quoi.
Tout à fait.
Bien sûr.
Je ne voudrais pas insister là-dessus, mais je crois qu'il faut prendre conscience que...
Bien sûr. Je le disais à ma fille encore hier soir, parce qu'il ne peut plus comme il faisait dans le temps. Mais nous, on avait des... Dans la rivière, qu'on appelle, c'était, il y avait des sources, à 3 ou 4 sources, dans une petite surface. Et bon, comme il ne pleuvait plus, c'est sec, j'ai fermé tout ça pour le labourer. Alors je lui dis, on est tous responsables aujourd'hui, parce qu'on se plaint que ce sont nous sommes on est disparu, mais qui sait qui les a déjà fait disparaître.
Faut être indulgent parce que vous n'étiez pas informé. C'est, je trouve que c'est beaucoup plus grave maintenant parce que tout le monde est informé de tout ce qu'on a détruit. Et donc là, vraiment, ceux qui continuent à agir comme avant sont vraiment responsables. Là, je trouve qu'il faut, faut prendre conscience de tout ça. Et...
Je pense que maintenant, c'est plus le, la rentabilité qui a changé la mentalité.
Voilà, alors qu'il a raison, monsieur, que dans le temps, je n'étais pas tout
préparé. Le qu'on avait.
Voilà. C'est le, ça. Problème, le problème, c'est qu'aujourd'hui, à part, comme il disait, les rencontres du soir, les échanges, oui. Ils communiquaient que sur leur vécu journalier. Aujourd'hui, la médiatisation, la communication a emporté d'autres informations. Et la modernité a fait qu'il a fallu acheter un tracteur, il a fallu après une machine, il a fallu acheter... Tout ça a fait qu'il fallait faire un peu plus de rapports. Financier et donc on a mis un peu plus d'engrais pour que la récolte soit meilleure et voilà et petit à petit mais ça y allait c'est venu tout doucement
hein. Tout à l'heure, les cantos cantent pas périlleux.
Allez, je vais le dire. J'ai toujours rêvé que Urval devienne un village de culture bio, puisqu'il y a le ruisseau qui traverse tout le village, donc en partant de...
Ils vont
le
chercher à l'étranger.
Oui, du haut du village en descendant jusque dans la plaine. Tout le long du ruisseau, ça pourrait faire des jardins bio. Mais bon, comme ça appartient à des propriétaires différents, c'est impossible. Quoi.
Moi, ça va pas être un rêve un peu zinzin comme tous les autres, si on peut dire ça.
Merci pour eux.
C'est un rêve historique, en fait. Pouvoir voyager dans le temps, mais surtout dans le passé. C'est-à-dire revivre 39-45 et 14-18.
Non, vaut mieux pas.
Non, il vaut mieux pas.
Pourquoi tu veux vivre ?
Il y a autre chose.
Remontez les pompes.
C'est normal, j'ai des bonnes. Pourquoi tu fais ça ?
Parce qu'il est un peu plus joli.
Il est joli ?
Je dis c'est une dodo.
Je ne déborde même pas.
Et pleut !